Bonjour à tous, on se retrouve nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Rivers. Vous connaissez l'adresse, vous connaissez le rendez-vous. On est avec Shai. Shai, plusieurs matchs au programme, 11 si j'ai bien compté. Alors, on ne va pas parler en détail de tous les matchs. Je te propose qu'on commence d'abord par le comeback de la nuit, le comeback de la saison, peut-être même. L'un des 6 comebacks les plus dingues de ces 25 dernières années, c'est celui des Hawks contre les Celtics. En plus, victoire d'Atlanta 120 à 118. Alors déjà, battre Boston, c'est un exploit en soi. Mais en plus, battre Boston sans Trae Young et sans Jalen Johnson, c'est encore plus beau, même s'il y avait aussi des absents du côté de Boston. Et battre Boston après avoir été mené de 30 points, c'est un scénario difficilement imaginable. Mais c'est bien ce qui s'est passé cette nuit, victoire d'Atlanta 120-118.
Énorme relâchement des Celtics qui étaient donc à plus 30, à quoi, 4 minutes de la mi-temps.
Ouais, mais 68-38.
Ouais, 68-38. Il manquait Jrue Holiday peut-être, mais bon, ça c'est pas
Jrue Holiday, Derrick White.
Derrick White, bon voilà, mais ça ne justifie pas de perdre comme ça. Ils ont craqué, ils se sont complètement endormis. Et les Hawks ont eu le mérite de s'accrocher et de revenir dedans avec le shoot à 3 points de ton gars DeAndre Hunter que t'aimes bien. On en parlait ensemble hier en disant que c'était un des joueurs que t'aimais bien. Et il met le panier qui plie le match à quoi, une dizaine de secondes de la fin, juste après que Dejounte Murray lui aussi était.
Mais c'est un panier complètement. En fait, tu sais, de prendre le tir à ce moment-là, c'est même plus une paire de testicules. C'est presque de la folie parce qu'il y a donc plus un pour Atlanta. Ouais. Il récupère la possession. Normalement, il peut juste garder la balle. Et lui, il s'est dit bon, non, pourquoi ? Tu vois, il reste 9 secondes. Il a pris le risque. Il s'est dit non, m'envoyez pas sur la ligne des lancers. Il a pris le risque de tirer et donc de, entre guillemets, tout gâcher. Parce que s'il rate qu'il y a un rebond défensif des Celtics, c'est contre-attaque ou quoi que ce soit, bah, c'est Boston qui gagne ce match. Non, il a assumé, il a pris ce tir et il a mis le tir à 3 points.
Apparemment, Paul George était devant le match et il a dit que c'était un bad shot, hein, apparemment. Mais... mais bon.
Très bon.
Il a d'autres soucis à régler, le pauvre.
Non, mais on y viendra après. Mais oui, du coup, bah, c'est la 15e défaite de la saison pour Boston, seulement en 72 matchs.
Ils étaient sur une série de 9 victoires de suite, 20 victoires en 22 matchs. Alors, c'est pas grave, mais c'est quand même bien d'éviter ce genre de choses. On louait leur stabilité, leur constance dans la performance. Alors, on va pas tirer à boulet rouge dessus, mais ça peut être bien pour leurs fans de leur éviter ça quand même.
Allez, on peut enchaîner avec un autre match avec le record. Autant aller sur ce record. Ça fait un moment qu'ils le cherchent, alors autant qu'on en parle. Les Kings ont battu les Sixers 108 à 96. Et ça y est, Domantas Sabonis a officiellement dépassé Kevin Love. Alors, il est encore très loin. Donc, 54 double-double de suite. C'est ça le record en question. Il est encore loin du record de Wilt Chamberlain qui est 227. Je pense qu'il ne le battra jamais. Mais en tout cas, depuis que la NBA et la ABA ont fusionné, le record, c'était 53 de Kevin Love. Sabonis, il a compilé son 54e double-double de suite. Il a même fait mieux vu qu'il a fait un triple-double. 11 points, 13 rebonds, 10 passes. C'est son 25e triple-double de la saison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 4 autres joueurs qui ont fait 25 triple-doubles sur une saison. C'est Russell Westbrook, Nikola Jokic, Oscar Robertson et Wilt Chamberlain, justement.
Ouais. Bah, bon, ce qu'il faut dire, c'est oui, bon, Chamberlain, il ne le rattrapera jamais. C'est très bien de faire 54 double-doubles de suite. Ça reste une performance, même si effectivement, il l'a cherché, comme tu l'as dit. Presque, les triple-doubles sont presque plus impressionnants en soi parce que c'est... Enfin, quand tu vois le nom des 4 joueurs qui l'ont fait, c'est impressionnant. Est-ce que je disais Sabonis, personne n'en parle, il est incroyablement sous-coté. On l'a dit nous un peu aussi entre nous que parfois on n'en parlait pas assez. Que
il aurait dû être All-Star. Quoi.
Il aurait dû être All-Star. C'est admirable. Après, j'espère pour les Kings que ça va se traduire par quelque chose de bien. Enfin, que c'est pas juste une série statistique comme ça qui lui tenait à cœur et que les performances vont suivre. C'est un joueur extrêmement important, au même titre que Fox pour Sacramento. Et là, ça s'est produit dans une victoire, donc c'est bien. Moi, j'ai toujours peur des performances dans le vide, des stats pour stater. Là, Sabonis, c'est plutôt un joueur qui certes, il stat, mais il le fait quand même dans des matchs solide. Où il gagne. C'est solide. Et là, ils l'ont fait contre Philadelphie. C'était important parce qu'en plus, il y a cette lutte avec Phoenix et Dallas pour la 6e place, pour éviter le play-in. Et pour l'instant, c'est Sacramento qui la tient. Donc, je critique pas Sabonis, c'est bien, il l'a fait et Sacramento est dans le coup.
Sacramento est dans le coup. Phoenix, justement, on peut parler de leur concurrent direct. Défaite contre les Spurs, 104-102. Défaite contre une équipe de San Antonio sans Victor Wembanyama. Ouais. C'est une défaite qui fait tâche. Hein. Ils ont parlé de défaite inacceptable.
Bah, c'est inacceptable. Hein.
36 points de Devin Booker, 29 de Kevin Durant et quasiment rien autour. Même Grayson Allen, en 35 minutes, il a mis 6 points. Bradley Beal a mis 9 points.
Et s'est blessé en plus.
Ouais.
Enfin, il est sorti à 3 minutes de la fin, il s'est blessé. Bon, il s'est blessé au doigt, donc ça va aller. Mais... Enfin, j'imagine que ça va aller. Mais...
Je vais te donner les stats de Bradley Beal sur ses 4 derniers matchs. Mm. 3 points, 12 points, mais avec 9 passes. 13 points avec 12 passes et 9 points.
Ouais, bon, il y a eu des moments où il scorait plus, hein, c'est pas... mais ouais, j'ai pas envie encore d'enfoncer Phoenix parce qu'ils ont des bonnes périodes, mais j'ai toujours pas confiance dans cette équipe-là. Là, des défaites comme ça à ce moment-là de la saison, alors que tu es vraiment à la lutte pour la sixième place qui est importante, éviter le play-in, c'est... surtout quand tu as des joueurs qui se blessent facilement, enfin qui ont des habitudes, un historique de blessures. Si tu peux éviter des matchs couperets comme ça, c'est quand même bien. Perdre contre les Spurs qu'on n'a pas Victor Wembanyama, c'est. Enfin, quoi, il y a une seule autre équipe qui a fait ça cette année, non?
Ils ont gagné qu'un match sans Victor. Ils ont gagné récemment encore sans Victor. Mais
ça a dû arriver au max, quoi.
26 points, 18 rebonds de Sohan, 26 points de Devin Vassell. Je suis quand même content que les Spurs aient gagné. Je trouve qu'il y a un. J'ai lu sur. Faut pas aller sur Twitter, en fait. Mais j'ai lu, tu vois, souvent je lis sur Twitter que Wembanyama est le des fois meilleur rookie de l'histoire. Je suis très gêné par cette affirmation. On a fait un top 10 des meilleurs rookies de l'histoire, on l'a même pas mis dans le top 10. Je trouve que les gens oublient un peu vite quand même ce qui s'est passé avant. Wembanyama est impressionnant, il est très fort. Ses stats sont impressionnantes. Faut pas oublier qu'il joue dans une équipe quand même assez faible et surtout, faut pas oublier que. Par meilleur, il y a des fois l'impact et les Spurs sont à 16 victoires. Quoi. Ça reste une équipe qui gagne très très peu de matchs. Ils sont partis pour faire la pire saison de l'histoire des Spurs, donc j'ai beaucoup de mal avec ce postulat. Et autre chose que je dis parfois, c'est le fait que les Spurs sont complètement nuls au-delà de Wembanyama. Alors,
non, c'est une équipe
faible, mais je trouve ça faux aussi et je suis content de voir les Spurs aussi un peu gagner sans lui. Rappelez que Vassell, c'est quand même un talent, que Sohan est un talent qui...
Je suis content pour Sohan. Ouais.
Ouais, exactement, c'est quand même un vrai bon joueur. Alors, c'est une équipe faible, c'est pas une très bonne équipe. Évidemment qu'elle est meilleure sans Wembanyama. Évidemment qu'Wembanyama a un gros impact, mais il n'est pas non plus un rookie qui fait gagner son équipe comme l'ont fait certains rookies. Hein. Je trouve qu'on a vraiment la mémoire courte. Il y a des rookies qui, direct, ont porté leur équipe à 45 wins et ce n'est pas forcément toujours des bonnes équipes. Donc voilà.
Faudrait requalifier, en fait. C'est peut-être un des 10 rookies les plus impressionnants. On va dire.
Ça, je suis prêt à l'accepter.
C'est pas un meilleur, on avait fait le top 10.
Mais je suis impressionné par Wembanyama, hein, d'ailleurs. Hein. Je trouve que pour moi, le futur est radieux pour Wembanyama. Je sens que ça va être un joueur vraiment exceptionnel.
C'est pas une top 10 saison all-time, mais dans l'histoire moderne récente, il est dans le top 10 des rookies les plus impressionnants après. Mais je partage ton avis, quand on a fait le top 10, on l'a pas mis dedans parce qu'il y avait tellement de mecs qui ont fait des trucs invraisemblables, que ce soit il y a très très longtemps ou il y a moins longtemps. Et je suis d'accord et je suis content. Je suis aussi content quand on voit les autres joueurs des Spurs parce que c'est aussi rassurant pour lui. Parce que lui, il a cette approche de dire il aime ses coéquipiers, il aime quand Sohan est performant. Il a une vraie connexion avec Devin Vassell, on l'a vu, ils s'entendent très très bien. Et je suis content de voir Sohan faire l'un de ses meilleurs matchs de la saison, tout court. Ça, c'est aussi encourageant pour les Spurs pour après, parce qu'on a quand même bien compris que les Spurs tablaient, misaient sur ces joueurs-là aussi pour entourer Wembanyama. Il y aura des ajustements, tout le monde ne restera pas tout au long du projet sur les 3, 4, 5 ans, mais ils croient en Sohan, ils croient en Devin Vassell, et c'est aussi bien de les voir faire ça. Ça n'enlève rien au fait que c'est une énorme faute de la part des Suns dans cette course-là qui est importante. Tu peux perdre contre San Antonio, c'est... Ah bon, voilà, on va pas les enfoncer, mais ça c'est pas rassurant. Bradley Beal blessé au doigt, on en reparlera. On va voir de quelle manière ils finissent la saison, mais je suis toujours pas rassuré pour un sou par les Suns. Au-delà du talent étourdissant de Booker et Durant, je suis pas très rassuré.
Bah, pour l'instant, les Suns sont 8e. On se dirige vers play-in de la mort un peu à l'ouest, parce que pour l'instant, les affiches du play-in, c'est Dallas, Phoenix, Los Angeles, Golden State. Alors, c'est pour l'instant encore sujet à changement. Donc, Dallas, j'y viens. Les Mavericks ont battu le Jazz 115-105. Pour l'instant, Dallas fait le taf. Hein. Dallas est sur 4 victoires de suite. Ouais. Sauf que bon, ça ne suffit pas à repasser dans le top 6. Mais pour l'instant, Dallas est lancé sur une bonne période. 29 points, 12 rebonds, 13 passes de Doncic, 27 points de Kyrie Irving. Et voilà, quatrième victoire de suite.
Grosse défense dans le quatrième carton. Ils ont concédé que 17 points. Et donc, quatrième victoire de suite, comme tu le disais. Ils sont à égalité quasi parfaite avec les Kings. Je pense qu'il y a peut-être juste.
Oui, c'est le même. Ils n'ont pas le tiebreaker. Il est à l'avantage de Sacramento. Mais...
Ouais, donc ça. Donc eux font le job contre une équipe inférieure. Il n'y a pas à l'extérieur qui plus est. Donc, tu as raison de dire que Dallas est en train de faire le job et contrairement aux Suns, un peu plus de certitude ces derniers temps en tout cas.
Ouais. Et tu l'as dit, les 17 points encaissés dans le quatrième quart-temps, c'est assez important. Ouais. Ça montre encore une fois que Dallas est capable de faire des stops, même si c'est contre une équipe comme le Jazz, c'est toujours bon à prendre. On peut parler d'une autre équipe de l'Ouest qui ne va pas très fort. C'est les Clippers qui sont passés cinquième. Ça y est, bien vu. Clippers ont perdu encore une fois à domicile, encore une fois contre une équipe de l'Est, 133-116. Il y a eu le retour de Westbrook. Ouais. Il a bien joué, il a mis 14 points, 7 passes en 18 minutes seulement. Ça n'a pas suffi. On a une équipe des Clippers. C'est la deuxième fois après une défaite qu'une superstar parle du manque d'identité. D'abord, c'était Paul George qui avait dit qu'il n'y avait pas d'identité. James Harden l'a dit aussi après cette défaite. 26 points de Kawhi, 26 points de Paul George, mais ils se font manger dessous. 31 points de Siakam, 21 points de Miles Turner. Encore une fois, ils ne défendent pas.
Ouais, c'est le problème. Hein. Enfin, c'est le gros problème parce que tu as raison, là, le trio est plutôt performant en attaque, ça va. Mais là, je sais pas, ça manque de plein de choses qu'on avait retrouvées sur le trade après le trade d'Arden avec leur énorme série. Alors, est-ce qu'ils ont, comme tu l'as dit, leur pic est arrivé trop tôt, est-ce qu'ils ont pas une... J'ai l'impression de voir une équipe fatiguée déjà mentalement, tu vois. Tu sais, ils ont du mal à refaire les efforts. Indiana, elle a évidemment rien leur laisser. C'est une équipe qui joue le coup, qui a des choses à jouer aussi. Et ouais, ça, la vibe est pas bonne. Alors je fais confiance à Tyronn Lue, c'est un très bon coach. Il va peut-être réussir à retrouver la formule. Mais c'est comme lors de leur mauvaise période au début du trade d'Arden. Quand je vois les trois sur le terrain, qu'il y a pas de blessure, ça me rassure pas de les voir contre-performer comme ça. Donc il reste un peu de temps, mais j'aime pas l'énergie autour de l'équipe alors qu'elle était l'énergie était super bonne quand même ces derniers mois. Comme ils ont cravaché pour revenir dans le top 4, c'était impressionnant. Et là. Les Pelicans sans jouer reprennent la quatrième place et ça confirme la dynamique qu'on a vue. Westbrook revient, donc ça c'est bien. Au niveau de l'énergie, c'est lui qui apportait aussi beaucoup de choses en sortie de banc. Donc là, il n'a pas pu être décisif, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui va les aider à revenir sur le droit chemin. Mais c'est dommage. Ils sont en train de gâcher le bon travail qui avait été fait avant.
Ce qui me fait peur, c'est que je ne vois pas. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un changement de rotation ou quelque chose. J'ai l'impression que c'est purement dans la tête. Ouais. Alors, le 5 majeur, il est très bien sur le papier. Je ne pense pas qu'il doit y avoir un meilleur 5. Et les minutes, tu peux toujours ajuster les minutes de ton banc, mais je pense que dans l'ensemble, ce n'est pas ça qui fera la différence. J'ai l'impression que c'est vraiment juste dans la tête. Et c'est là où c'est plus problématique. C'est, on le dit souvent, je ne suis pas sûr qu'il y ait un leader dans ce navire. Tyronn Lue, c'est un leader. Il a une voix, il a quelque chose, mais tu as aussi besoin qu'il y ait un joueur qui le fasse. Ça ne peut pas être qu'un coach.
T'as vu ce qu'il a dit Tyronn? Ils ont parlé de la question de l'identité là, vu que ces joueurs l'avaient abordé. Il a dit notre identité en ce moment c'est d'être soft. En mode c'est le même avec Kobe, qui dit à Dwight Howard à l'autre bout du banc soft.
C'est fou comment les équipes de James Harden ont quand même cette capacité à être soft. C'est pas pour remettre la faute sur lui, c'est pas le seul hein, mais c'est quand même, alors qu'en plus l'ironie hein, c'est que les Clippers depuis Kawhi et Paul George, je trouve que c'était les équipes des Clippers. Alors, ils se sont écroulés dans la bulle, mais à l'échelle des Clippers, c'était les équipes les plus fortes mentalement qu'on avait vues à l'échelle des Clippers. Ça veut pas dire que c'était les plus fortes de la ligue mentalement, mais les plus résilientes, courageuses, etc. Et là, c'est pas trop le cas. Alors, je mets pas nécessairement ça sur le dos d'Arden, mais. Mais il faut que dans la tête, il y ait quelque chose qui se passe. Et je ne sais pas si Westbrook, est-ce que Westbrook pourrait être le leader qui dynamise le tout en sortant du banc. On verra. Mais il y a besoin d'un mec qui distribue quelques claques dans le vestiaire.
Et leur calendrier, je suis en train de regarder leur calendrier. Parce que donc, ils ont perdu 6 de leurs 9 derniers matchs pendant que derrière, les Pelicans cravachent. Mais sur la fin de saison, ils doivent encore jouer les Kings, les Nuggets, deux fois les Suns, les Rockets, dont on va sans doute parler après, qui aussi sont dans une forme énorme. Des équipes qui jouent des trucs, hein, les Cavs. Il n'y a que les Hornets vraiment qui vont affronter, qui sont et le Jazz, voilà, sur les derniers matchs. Mais sinon, attention. Et si tu regardes le classement, ils sont même pas sûrs de finir cinquième en fait.
Hein. C'est ça. y a encore un monde.
Il n'y a que deux victoires d'écart avec les autres. Ça peut, ouais. Ça peut aller au play-in. Ce serait catastrophique. Avec, ils avaient été tellement bons
vraiment
jusque-là.
C'est coulé, mais c'est possible. Bah tiens, tu as parlé des Rockets. Les Rockets, 9e victoire de suite. Alors, c'était contre les Blazers. Houston qui revient en nombre de victoires, même bilan que Golden State en 36 victoires chacun. Houston a une défaite de plus. Houston est donc tout près de la place de Golden State. Golden State a aussi un calendrier difficile. Ouais. Houston pourrait repasser devant. Ça ne voudrait pas forcément dire que les Rockets termineraient 10e, mais Houston pourrait prochainement repasser devant. Après, il y aura un Houston-Golden State qui sera très déterminant, je pense. Mais donc, Houston, 9 victoires de suite, 110-92 contre Portland, 27 points de Jalen Green. Alors, il était très maladroit, hein, 9 sur 26, mais bon, il a quand même mis ses 27 points. Il y a tout autour. D'ailleurs, c'est vraiment lui qui devient le go-to guy plus que Fred Van Fleet. Et il y a un truc qui se développe sans Şengün. J'adore Şengün.
Ah oui, moi, je suis.
Mais ça défend quand même nettement mieux sans lui. Ça joue plus vite, ce qui arrange plus Green. Ça joue beaucoup plus vite, même pas juste plus vite, ça joue beaucoup plus vite. Ce qui est pratique pour un mec comme Green, il y a plus d'espace. Ça développe Amen Thompson qui est beaucoup plus à l'aise parce que maintenant Jabari Smith est le pivot titulaire, c'est un pivot small ball. Ça joue small ball mais avec des grands, donc des mecs assez polyvalents, assez athlétiques. Ça profite à Amen Thompson qui voilà, il a fait 12 points, 9 rebonds. Il est sur une bonne période lui aussi. Il se montre beaucoup plus que son frère en ce moment. On comprend son statut de 4e choix de draft et ça défend beaucoup mieux sans Alperen Şengün quand même.
Ouais. Et alors, on peut se dire que quand il reviendra, il va travailler là-dessus. Il y a des joueurs qui étaient plus ou moins des moins-values défensivement qui sont devenus des joueurs corrects. Il est encore assez jeune. Donc, ce que j'aime bien à Houston, c'est ça, c'est que tu as raison. Là, ça se développe sans lui. On voit des joueurs se révéler. Jalen Green, dans lequel je ne croyais pas beaucoup, qui est vraiment en train d'acquérir une régularité. Mais c'est ce qu'a dit Udoka après le match. Hein. Il a dit même là, il a galéré au shoot, mais il a grindé, il s'est accroché. Et il finit avec 27 points. Il a eu l'impact positif sur le match. Il y a un monde où l'année prochaine, moi je suis vraiment curieux de cette équipe la saison prochaine, qui joue le play-in ou pas, parce qu'ils ont un coach qui est tout de suite dans la compète. Et si tu joins là, cette bonne dynamique sans Şengün à ce qu'apporte Şengün, plus peut-être un peu de progrès défensif de sa part, ça fait un beau bazar quand même. Ils ont de quoi faire. Ils ont un meneur qui a été All-Star, qui a de l'expérience, les jeunes autour qui progressent, un super coach. Je me projette déjà, mais c'est déjà l'équipe que je vais avoir envie de suivre l'année prochaine, une des équipes que je vais avoir le plus envie de suivre la saison prochaine. Et je dis ça alors qu'ils vont peut-être déloger, faire une sensation et déloger les Warriors. On n'en est pas encore là, mais attention quand même, ils commencent à sentir le souffle des Rockets dans la nuque, là, quand même.
Oui, complètement. Victoire de New York contre Détroit, 124-99, grosse perf.
Dante.
Ouais. Alors, il y a eu encore un triple double de Josh Hart au passage. Je commençais avec ça. C'est le mec qui est développé en menace de triple double tous les soirs. 11 points, 14 rebonds, 10 passes. Mais donc, surtout 40 points de Dante DiVincenzo. 11 paniers à 3 points en 20 tentatives, hein, quand même.
Il en met 11. Sa faute. Franchement, c'est pas de sa faute. Bah, j'étais devant le match. Ils l'ont incité, ils l'ont poussé. T'as la salle qui arrêtait pas et tout le monde voulait qu'il ait le ballon. Il était presque gêné, il l'a dit après. Donc, c'est une soirée.
Il a battu le record pour un joueur des Knicks. Contre, c'était alors un record qui appartenait à Evan Fournier et J.R. Smith avec 10 chacun. Evan Fournier était en face, il a mis 15 points d'ailleurs, Fournier pour les Pistons. Mais donc, DiVincenzo a battu ce record. Je vais aller regarder pendant ce temps, je vais te laisser la parole, je vais aller regarder les stats de DiVincenzo depuis l'All-Star Game parce que j'ai l'impression que c'est absolument insane.
Il est chaud cette saison, il est vraiment,
c'est vraiment un bon joueur. Ouais. Offensivement, enfin,
mais soirée record parce que record personnel en NBA, 40 points. Et le record du nombre de paniers à 3 points, comme tu le disais, inscrit par un joueur des Knicks avec 11, devant Evan Fournier, qui était là. Mais DiVincenzo, super rapport, il est encore plus tranchant depuis que Randle et Anunoby sont blessés. Et il fait une saison, c'est une super recrue. Quoi. La mafia de Villanova, ils ont vraiment bien fait de se réunir, parce que entre Josh Hart qui fait des triples-doubles, DiVincenzo qui fait la meilleure saison de sa carrière, Jalen Brunson, n'en parlons même pas. Josh Hart, c'est très fort.
J'ai ses stats depuis le All-Star Game, c'est ça que je voulais voir. Il est à 19 points de moyenne depuis le break du All-Star Game. Évidemment, c'est lié au fait qu'il y avait des absents, mais c'est très, très fort. 37% à 3 points. C'est un joueur qui était aux Warriors l'an dernier. Moi, je pensais que c'était une super pioche pour Golden State la saison dernière. Ça n'a pas fonctionné plus que ça. Et quand je vois son apport au Knicks, je me dis, mais il sera aux Warriors là. Ce serait lui à la place de Podziemski dans le 5 majeur. T'sais, ils ont un profil un peu similaire. En meilleur défenseur, plus expérimenté et meilleur joueur aujourd'hui. Je me dis, mais cette équipe des Warriors, elle serait différente. Et ouais, les Knicks, très joli coup d'avoir signé ce gars. Ah, c'est ça, ils tiennent la baraque.
Il a que 27 ans. Il a que 27 ans. C'est un non, vraiment super joueur. Moi, je l'aimais, à la fac, je l'aimais bien. C'était le MOP du Final Four.
Oui, du Final Four.
Il est capable de prendre feu. Enfin, super, super joueur très complet. Je te rejoins. J'étais un peu déçu que ça ne fonctionne pas, bien, pas aussi bien que prévu avec les Warriors. Et la pioche d'Enix, c'est magnifique, là. C'est super joueur.
Et sinon, des trois, hein, c'est mon pari, c'est mort, ils termineraient ouais. dernier. Parce que surtout victoires, que... ils font complètement tourner, il n'y a plus un seul titulaire qui joue.
Mais aussi et surtout, les Wizards qui gagnent des matchs.
J'allais y venir. Troisième victoire de suite des Wizards qui ont battu les Bulls, 107-105. 23 points de Jordan Poole, 19 points, 12 rebonds de Corey Crispirt, 14 points, 15 rebonds de Richon Holmes. Voilà, victoire contre Chicago. Chicago qui réussit à perdre contre Washington à domicile.
Ouais. Peuvent encore finir dixième et perdre l'avantage du terrain par rapport à Atlanta.
Ah oui, sur le play-in.
Ouais. Et tu as raison, on devrait sanctionner les équipes qui sont trop loin au play-in. ils ont 5... Bon, Philadelphie n'est pas dans une bonne passe non plus. Donc, il y a 5 victoires d'écart entre Philadelphie 8e et Chicago 9e. On se dirige vers un Chicago-Atlanta qui ne va pas être la plus excitante des séries de play-in. La seule question, c'est de savoir qui va recevoir maintenant.
Allez, je donne en speed deux résultats dont, honnêtement... On se fiche un peu. Victoire des Cavaliers contre les Hornets, 115-92. Victoire des Nets contre les Raptors. Les Raptors, ils sont déjà en vacances. Hein,
je ah ouais, dis. Totalement.
Victoire 96-98 à Toronto. Je ne sais même pas si les joueurs de Toronto, ils vont encore à l'entraînement. Ils sont vraiment en vacances.
Bah, le 5 avec Freeman Liberty, Gay qui joue. Enfin, l'équipe, elle est, ouais, c'est invraisemblable.
Oui, si on peut. Enfin, j'ai déjà fait le jeu de deviner les joueurs des Raptors. Ils ont relancé Kobe Simmons.
Ouais.
Lui, je sais qui c'est, tu vois. Mais je ne savais pas qu'il.
T'avais oublié qu'il existait, ouais, c'est ça.
Exactement. Bon, bref, on a fait le tour pour les matchs, mais il y a autre chose dont on aimerait parler pour conclure ces CQFR. Et ça concerne justement Toronto. Transition involontaire, mais parfaite. Donc, il n'y avait pas de Jonte Porter sur la feuille de match de Toronto. Ça fait le deuxième match de suite qu'il est absent pour raison personnelle. Jonte Porter, c'est le frère de Michael Porter Jr. Jusque-là, on ne savait pas exactement pourquoi il était absent. Même si tout le monde s'en fiche, personne ne regarde pourquoi les joueurs des Raptors sont absents. Je pense que personne n'avait même remarqué son absence, à part les 4 fans francophones des Raptors en France. Mais bref, tout ça pour dire que Toronto, le joueur de Toronto est sous le coup d'une enquête, de la Ligue. Parce qu'il y a des paris un peu suspects autour de ses performances. Ça y est. Je ne sais pas si tu
tout
veux.
Un petit peu suspect, alors.
Si tu veux le détailler ou si tu veux que je détaille.
C'est un euphémisme suspect parce que du coup, les enquêteurs ont. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système de paris, on n'est pas obligé de parier que sur victoire ou défaite d'une équipe ou même.
Tu
as les fameux over-under qui sont très populaires chez les parieurs américains. Ça peut être sur le nombre de victoires sur une saison d'une équipe, ça peut être sur le nombre de rebonds d'un joueur sur un match donné. Et là, en l'occurrence, c'était sur, si je dis pas de bêtises,
le premier match, c'est le nombre de paniers à 3 points qui était en dessous de 0,5. Donc,
fallait qu'il en prenne aucun, en fait, c'est ça.
Non, qu'il en mette.
C'était qu'il en mette, pardon. Okay. Ouais. Mais
qu'il en mette aucun.
Il y a eu des mises avec des montants qui n'ont aucun sens. Alors, pour certains, les montants n'ont aucun sens de manière générale, hein, mais pour vous situer le truc, ces paris-là, en moyenne, les gros paris, c'est autour de 1 000 $, ce qui est déjà une somme folle. Hein, mais bon, un mec qui est assez sûr de lui, qui a une masse d'argent pour parier importante, 1 000 $, c'est pas grand-chose. Là, il y a eu des paris à hauteur de 10 000 $, 10 000 à 20 000 même, je crois.
Ouais, 10 000 à 20 000.
Pour des sommes qui n'ont aucun sens sur...
Sur le fait qu'il mettrait pas de panier à 3 points sur un match contre les Clippers.
Et sur les matchs en question, vas-y, je te laisse poursuivre parce que c'est toi qui avais fait la news ce matin en plus.
Donc ouais, pardon. Du coup, je détaille. Ok. Donc, contre les Clippers, il y avait ça, mais il y en avait un autre contre les Kings.
Ouais.
Aussi, contre les Kings, là, c'était pour le nombre de points et rebonds en dessous. Enfin, bref. Mm-hmm. Ces deux soirs-là, c'est ces paris-là, les paris autour de Jonte Porter qui ont rapporté le plus d'argent. Ok. Jusque-là, bon, c'est déjà beaucoup de gens qui gagnent de la thune sur Jonte Porter, pourquoi pas. Maintenant, il faut rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que le match contre les Clippers, il est sorti au bout de 3 minutes, je crois. 3 minutes.
Ouais.
Pour, apparemment, il aurait aggravé une blessure à l'œil. Okay, ouais. C'est sans doute ce que lui a dit au staff, et c'est ce que le staff a relayé. On ne sait pas encore si c'est vrai ou pas, peu importe, on n'est même pas dans la supposition, mais juste on va donner les faits. Donc, il est sorti au bout de 3 minutes et il n'a pas tenté un seul 3 points. Donc, forcément... Ouais. pour le under 0,5, bing, c'est gagné. Deux jours plus tard, il met 12 points, 7 rebonds en jouant 19 minutes. Deux jours après, il peut jouer, ça y est, c'est fini la blessure à l'œil, 12 points, 7 rebonds. Puis il y a un match plus tard contre les Kings.
Ouais.
Donc là, il y a des paris, beaucoup de paris sur le under, et apparemment les sites de paris ont reçu énormément une vague de paris de plusieurs accounts avec des gros paris et des gens qui ont vraiment essayé de vouloir parier. Il n'y a pas toujours une limite sur les sites. En tout cas, la limite peut être élevée. Il y a plusieurs personnes, donc plusieurs comptes qui ont essayé de parier. Et ce match-là, Porter rebolote, il sort au bout de 3 ou 4 minutes parce qu'il est malade. Donc, imagine que c'est ce qu'il a dit au staff, je ne me sens pas bien, je suis malade, je sors. Voilà. Et donc, c'est ça qui rend le truc un peu suspect.
Ah, c'est forcément ultra suspect quand on parle d'un joueur qui a un salaire. Parce que les superstars n'ont logiquement aucun intérêt théorique à verser dans ces trucs-là parce qu'ils gagnent plus. Bah, tu prends son frère par exemple, il gagne tellement plus juste en posant ses fesses sur un banc ou en rentrant 5 minutes dans un match qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais Jonte Porter, il est en two-way contract avec Toronto et il gagne $400,000 la saison. Donc là, si à chaque match. Il prend un pourcentage. Alors, c'est la théorie. C'est l'enquête porte sur ça. Il se demande si Porter, c'est évidemment pas Porter qui est allé au bistrot du coin, au PMU, parier sur lui, je vais mettre moins de machin, parce que sinon le mec se fait griller et il est totalement débile. Là, ce serait des gens autour qui auraient fait ces paris-là avec son accord à lui. Il leur aurait supposément dit bah oui, allez-y, parier là-dessus, je vais essayer de que ça se réalise. Et il prendrait un pourcentage. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé dans les autres histoires de ce genre, dans l'histoire du sport et des paris sportifs. Donc, c'est ce qui lui est reproché. Et forcément, si tu regardes là les éléments...
En tout cas, c'est sur ça que la NBA mène l'enquête.
Voilà. Et tu regardes là les éléments, c'est difficile de pas trouver ça suspect. Les gens qui connaissent un peu les paris, dès qu'il y a une somme très élevée sur quelque chose, c'est que quelqu'un a eu une indication. Et l'indication en question, bah, dans ces situations-là, c'est souvent bah, un joueur ou des joueurs ou une équipe qui a accepté soit de lever le pied, soit de tout faire pour réaliser le pari en question. Donc, on ne va pas non plus tout de suite l'envoyer en prison, hein, garçon, mais les éléments sont assez, c'est assez à charge contre lui. Il y a de quoi faire pour les enquêteurs, là. Et ça nous amène à... Bah, c'est la période, là. Peut-être que la vigilance est accrue depuis que Rudy Gobert a parlé de ça et s'est pris une amende là-dessus. Alors, c'est pas la même situation. Il a parlé des arbitres.
Oui, mais il s'est pris une amende, pas sur ça, ce qu'il a dit.
Non, c'était pas sur ça.
C'était sur le geste qu'il a fait auprès des arbitres.
Bien sûr, mais c'était dans la foulée. Après, il a insinué que les paris sportifs avaient un impact dans le sport. Et on peut dire il a peut-être lié ça à la décision de l'arbitre en question qu'il avait sorti du match. En gros, c'est ce qu'on avait pu comprendre. En tout cas, il a pu dire « bah oui, s'il prend ces décisions-là, c'est sans doute parce qu'il a un intérêt à le faire. » Peut-être au niveau des paris, machin. Bref. Et il y a aussi JB Bickerstaff, peu de temps après, qui a dit que les mecs, les joueurs, les coachs recevaient des messages, des menaces, des propositions pour truquer certains paramètres des matchs. Donc, c'est la période où l'NBA, qui a signé d'ailleurs des deals encore avec des organes de paris sportifs, va devoir gérer une mini-crise comme ça.
Oui, parce que Adam Silver, c'est un grand avocat de la légalisation des paris. Bien avant d'être commissionnaire, il a toujours milité en faveur de ça. Là maintenant sur le League Pass, il y aura justement un accord pour parier directement sur le League Pass. Il va là-dedans, il s'enfonce là-dedans. Attention, c'est une manière de faire rentrer le loup dans la bergerie, pour reprendre une expression française. Voilà. Donc faut faire gaffe à ça. Je pense que ça peut aller loin. On verra ce que ça donne pour Jonte Porter.
Et faut juste préciser l'intérêt qu'a la NBA à laisser entrer le loup dans la bergerie, comme tu dis. C'est que DraftKings et compagnie, tous ceux qui sont maintenant impliqués avec la Ligue pour ces paris-là, en direct ou pas, bah, mettent des sommes invraisemblables pour être dans l'affaire. Donc, ça fait gagner énormément d'argent à la NBA, le simple accord, le simple deal de sponsoring. Je ne crois pas que la NBA gagne des sous sur chaque pari qu'un tel va faire, ce n'est pas ça. Voilà, c'est le sponsoring qui est gigantesque, on n'a pas le montant, mais c'est aussi pour ça qu'Adam Silver a poussé. Donc là, du point de vue financier, c'est compréhensible, mais par contre, c'est très dangereux. On peut se retrouver avec des situations comme ça, où, avec des joueurs pas d'un standing très élevé, sont tentés de répondre favorablement aux propositions qui pourraient y avoir là-dessus.
Bon, on va s'arrêter là. On va de toute façon suivre ça de près. On se retrouvera, n'oubliez pas d'ailleurs, j'y pense, le podcast d'hier est toujours disponible. On est revenu sur Miami, c'est une équipe qui peut intéresser beaucoup de monde. Le Heat, c'est une équipe qui peut diviser, ça a divisé au sein de la rédaction. Elle a fait un podcast, voilà, un peu au travers du surcoté, sous-coté. Donc, allez checker ça. Nous, on se retrouve ce soir pour une late session 23h sur Twitch et demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous.
Bonne journée.